du lundi au vendredi, tous les soirs à Radio Intégration, espace 18h30-22h. Soyez au cœur de l'intégration dans la zone CEMAC avec les cahiers de l'intégration. Une émission qui vous fait découvrir une véritable et concrète mise en commun des efforts pour gérer les ressources de la sous-région Afrique centrale au profit de tous et de chacun. Une communauté de 6 États engagés pour développer un espace intégré et y promouvoir un développement harmonieux. L'interconnexion des pays de la zone CEMAC. 19h, on en parle. C'est 52 minutes de tout ce qui fait notre quotidien. Restez au cœur de l'intégration des communautés avec Radio Intégration, la voix des communautés. Madame, Monsieur, bienvenue dans les cahiers de l'intégration. Chaque rentrée scolaire, c'est la même image qui revient. Des cartables flambant neufs, des uniformes bien repassés, des crayons qui brillent comme des promesses. Mais derrière ce décor joyeux, une réalité bien plus dure se cache. Celle des parents qui saignent financièrement, qui se privent chaque jour pour que leurs enfants prennent le chemin de l'école. Oui, ce sont des véritables héros de l'ombre, malgré des revenus rabougris, malgré les sacrifices parfois insoutenables, ils tiennent bon, ils refusent que leurs enfants restent prisonniers de l'ignorance. Leur courage mérite d'être salué, mais il y a aussi une question de fond. Cette résilience admirable ne traduit-elle pas aussi les failles de notre société? Une société qui oblige ses citoyens à supporter l'insupportable, à plier sans rompre, là où de meilleures politiques éducatives et économiques devraient soulager les familles. Et pourtant, l'essentiel demeure. Chaque cahier offert, chaque paire de chaussures achetées, chaque livre glissé dans un cartable est un acte de foi dans l'avenir. Envoyer un enfant à l'école, ce n'est pas seulement préparer des examens, c'est lui donner les clés pour bâtir un monde meilleur. Mais voilà, malgré tous ces sacrifices, une inquiétude grandit. Car si les parents se battent avec tant de courage pour inscrire leurs enfants à l'école, que se passe-t-il lorsque ces mêmes enfants échouent? Quand malgré les efforts, les résultats ne suivent toujours pas? Là se pose avec force une question cruciale, celle de l'échec scolaire au Cameroun et en Afrique centrale en général. C'est le thème de notre émission de ce soir qui vous sera présentée en trois rubriques comme d'hab. À micro ouvert, l'invité du jour et l'avis de l'expert. Pour en discuter, nous avons fait appel à un enseignant chevronné, chercheur et conseiller pédagogique en la personne de M. Guy Domchouin. Bienvenue dans le studio de Radio Intégration ce soir.
Merci, bonsoir.
Alors, Monsieur Domchouin, votre titre est percutant. Les parents entièrement responsables, pourquoi avoir choisi de pointer directement les parents?
Bonsoir à vos nombreux invités. Comme je l'ai dit dans ce papier, je voulais choisir un titre un peu plus percutant, mais il me fallait trouver celui-là pour sonner l'alarme, pour alerter le grand public, parce que après près d'une trentaine d'années d'observation, je me suis rendu compte que les parents participent de manière involontaire, peut-être ignorant, mais je ne pense pas, à l'échec de leurs enfants. Pourtant, ils veulent bien que les enfants réussissent. Malheureusement, ces enfants vont à l'école dans de très mauvaises conditions. C'est pour cette raison que je pointe du doigt de manière ferme vers les parents, parce que c'est eux et c'est eux seuls qui sont responsables.
Vous avez plus de 30 ans d'observation du système camerounais. C'est cela, j'espère.
Oui, je suis dans le métier depuis une trentaine d'années.
Qu'est-ce qui vous fait donc? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'attitude des parents?
Eh bien, c'est cette volonté généralisée à refuser d'accepter les règles du jeu. L'école, c'est une activité, comme toute autre activité, avec ses règles. Les enseignants font un effort au niveau de leurs règles, mais les parents refusent, du moins ceux dont les enfants éprouvent des difficultés, les parents refusent de respecter les règles. Ils refusent de jouer le jeu pédagogique. Et c'est pour cette raison que je les pointe du doigt comme étant les responsables.
Oui. Lorsque vous dites qu'ils refusent de respecter les règles, est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite?
Alors, je vais commencer au niveau de l'école. Parce que j'aurais dû commencer un peu plus tôt. Quand un parent arrive dans une école, ils vont inscrire son enfant en maternelle. Dans la plupart des cas, quand vous leur posez une question au président de l'indicatif, ils vous répondent au futur simple. Quand vous demandez « Quel âge a votre enfant ?» Ils vous disent « Il aura 5 ans l'année prochaine. Il aura 5 ans dans 6 mois. Il aura. » Il ne vous dit pas que l'enfant a 4 ans. Parce que nous, à l'école, nous n'avons qu'un seul paramètre. C'est l'âge scolaire. À la maternelle, vous venez un enfant de 5 ans, je l'inscris en deuxième année maternelle, en grande section. Un enfant de 4 ans, c'est la moyenne section. Un enfant de 3 ans, c'est la petite section. Mais il refuse. Les programmes sont bâtis autour d'un ensemble de savoirs qui correspondent à l'âge de l'enfant. On ne peut pas donner un apprentissage de 5 ans à un enfant qui a 3 ans.
Absolument.
Alors, les parents se braquent. Et nous avons des écoles. Et là, c'est aussi la responsabilité de certains directeurs d'école et promoteurs. Le parent arrive et choisit la classe de son enfant. Ça ne se passe pas comme ça. Imaginez un peu, vous allez à l'hôpital et vous contestez l'ordonnance du médecin. Ça va donner quoi? Ça ne donnera rien de bon. Donc, au niveau du respect de l'âge, les parents refusent. Et dès que le parent refuse, il dit qu'il va se débrouiller. On ne va pas, l'enfant ne va pas à l'école pour se débrouiller. Il va pour être dans les conditions nécessaires d'apprentissage. Donc, si je ne me limite qu'à ce niveau, et qui est le phénomène le plus important, l'âge scolaire. Les médecins, ils ont plusieurs paramètres. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande votre âge. On prend votre température et on prend votre poids. C'est en fonction de ces paramètres qu'il prend un ensemble de décisions. Mais à l'école, nous n'avons que l'âge. Et les parents veulent un petit chien. Aujourd'hui, ils gardent. Vous avez des enfants qui viennent au monde, mais on fait leur acte 2 ans après. J'ai connu un enfant de 7 ans qui faisait le concours d'entrée en 6e. Pourtant, il avait 12 ans. On a fait son acte quand il entrait à la CIL ou en grande section. Donc, rien qu'à ce niveau-là, les parents ne nous facilitent pas la tâche. Et quand un enfant n'a pas l'âge, n'est pas dans sa classe d'âge, l'enseignant ne peut pas faire de miracle. Un enfant de 4 ans qui est à la CIL, l'enseignant ne fera pas de miracle. Un enfant de 8 ans, 9 ans, 15, 6e, les professeurs ne feront aucun miracle. C'est un enfant qui sera traumatisé. Donc, tout part de là. Et la responsabilité des parents commence là. Ça, c'est de... S'il faut rentrer avant l'école maternelle, mais des enfants qui arrivent à l'école, ceux qui ont commencé cette année, c'est des enfants stressés. Stressés parce que pendant la grossesse, lorsque la maman ne fait pas toutes ses visites prénatales, l'enfant est exposé. Si après l'accouchement, les différents vaccins ne sont pas respectés. L'enfant est exposé. Et ces visites, ces médicaments ont un impact sur le cerveau de l'enfant. Nous, à l'école, nous travaillons avec des enfants. En fait, nous travaillons avec leur cerveau. Lorsque le cerveau éprouve des difficultés, lorsque le cerveau de l'enfant est inapte à l'apprentissage, lorsque le cerveau de l'enfant a été touché par l'absence d'un produit ou bien l'excès d'un produit, alors l'apprentissage devient difficile pour cet enfant. Donc, voilà deux éléments avant l'école et en maternelle qui me poussent à dire que la responsabilité des parents est engagée. Et je vais continuer en vous disant que quand bien même le directeur d'école se rend compte qu'un enfant ne peut pas aller en classe supérieure, on lui demande de reprendre la classe. Que fait le parent? Le parent refuse le redoublement. Il va inscrire en classe supérieure ailleurs.
Absolument.
Il y a des enfants qui ne font jamais le passage en classe supérieure normalement. Il redouble la CIL, on l'envoie au coup préparatoire en changeant d'école. Il redouble le coup préparatoire, on l'envoie au coup élémentaire 1 en changeant d'école. Il redouble le coût élémentaire de ainsi de suite. Voilà donc un parent qui s'arrange à détruire de manière sereine l'avenir de son enfant, l'avenir scolaire. Mm-hmm. Au coup moins un, il fait sauter l'enfant. Je connais des enfants qui en principe devaient reprendre le coup moins un, qui sont aujourd'hui en sixième. Avec le phénomène des écoles et des collèges privés, on accepte tout le monde. On accepte vraiment tout le monde.
Pourvu que vous ayez de l'argent.
Tout à fait. Et là, c'est au détriment. On va accuser l'école. On va accuser le collège. On va accuser les enseignants. On va accuser le système éducatif camerounais. Pourtant, les accusateurs sont ceux-là même qui détruisent leurs enfants. Donc, les parents sont totalement responsables. Si les parents pouvaient respecter, et Dieu merci, nous avons des parents qui respectent l'âge des enfants. Quand un enfant commence à la CIL, à 6 ans révolus, il n'a pas besoin de répétiteur jusqu'en terminale. C'est des exemples que nous avons vécus, que nous vivons chaque jour. Lorsque l'enfant a l'âge de la classe, il est à l'aise, il fait ses devoirs seul, il se couche au plus tard à 19h30, il se réveille à 5h. Alors que lorsque l'enfant n'a pas l'âge de la classe, il aura de la peine à terminer ses résumés, à terminer ses épreuves. Il aura des difficultés en lecture. Absolument. Et lorsqu'on donnera des devoirs, parce que quand un enfant est au cours élémentaire 1, à 8 ans, mais on donne les devoirs en fonction de l'âge de la classe. Un enfant de 8 ans fait ses devoirs en 1h30 maximum. Mm-hmm. Mais un enfant qui n'a pas l'âge commencera ses devoirs à 17h, mais à 21h, il n'aura pas terminé. Et vous les voyez se plaindre, les parents. On donne trop de devoirs. Ils se plaignent qu'on donne trop de devoirs. Pourtant, ces devoirs sont calibrés par rapport à l'âge de la classe. Et maintenant, les enseignants sont coincés. Mmh. Et moi, je leur donne toujours ce conseil. Quand vous êtes dans une classe avec des élèves qui ont l'âge et ceux qui n'ont pas l'âge, ils ont deux choix à faire. Soit ils vont au rythme de ceux qui n'ont pas l'âge en sacrifiant ceux qui ont l'âge, soit il va au rythme de ceux qui ont l'âge en sacrifiant
ceux qui
n'ont pas l'âge. Et là, il faut faire un choix. Et moi, je l'ai dit, on ne peut pas sacrifier les enfants dont les parents ont respecté l'âge parce qu'il faut sauver ceux dont les parents n'ont pas respecté l'âge. Donc, voilà un peu comment ça se passe.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Le phénomène de saut de classe
est souvent perçu comme une fierté familiale. Alors, j'aimerais savoir pourquoi estimez-vous que c'est une erreur stratégique?
Bien, le phénomène de saut de classe, c'est quelque chose de très dangereux. Quand on observe un peu, et vous avez parlé de fierté familiale, lorsqu'un élève est brave dans une classe, cela ne veut pas dire qu'il doit sauter cette classe. Cela signifie simplement qu'il est à l'aise dans cette classe, que les contenus d'apprentissage correspondent à ses aptitudes. Cela signifie qu'il est à l'aise. Simplement. Alors, si un enfant prend le jus et il a l'aise correctement, est-ce que cela signifie qu'on doit lui donner le whisky ou bien la bière?
Qu'il faut même doubler le jus, parce que le jus aussi peut être dangereux pour voilà. la santé.
Donc, ça ne devrait pas être une fierté. Et je vous dis une chose, et ça c'est le fruit de plusieurs années d'observation. Lorsqu'un enfant est brave dans une classe, et qu'on pousse cet enfant à sauter la classe suivante, il ne sera plus jamais brave. Il sera un élève moyen, mais il ne comprendra jamais pourquoi il est moyen. Moi, je permets à certains enfants de faire le saut de classe, mais il y a des préalables à respecter. Lorsqu'un enfant arrive au coup moyen, par exemple, à 14 ans, à 14 ans, et qu'il est brave, je peux autoriser ses parents à faire sauter la classe. Mais là, on prend des précautions pour que cet enfant fasse les activités du coup moyen 2. Il a l'âge. À 14 ans, on doit être en 5e ou en 4e, voire 3e. Alors, lorsqu'on a 14 ans au coup moins 1, cela signifie qu'on a les aptitudes. Le cerveau est prêt à absorber un ensemble d'apprentissages. Mais là, j'aimerais me retourner vers le ministère de la femme, de la famille. C'est leur rôle de dire aux parents, d'éduquer les parents, qu'avant de se marier, on doit faire des examens au préalable. Est-ce que le père et la mère sont compatibles? Est-ce qu'ils ne feront pas un enfant difficile? Est-ce qu'ils ne feront pas un enfant trisomique? Est-ce qu'ils ne feront pas un enfant autiste? Est-ce qu'ils ne feront pas un enfant qui aura des difficultés plus tard? Lorsque le père AS et la mère SS, c'est un mariage qu'il faut annuler au nom des enfants qui vont arriver. Parce que lorsque les parents sont sûrs de par leur ce type d'examen d'avoir des enfants SS, ils savent qu'ils auront des enfants qui vont souffrir toute leur vie. Il faut éviter ça. Le ministère de la femme et de la famille devrait éduquer les jeunes. Le ministère de la jeunesse devrait éduquer les jeunes à faire des examens avant de se marier. Il y a des examens préliminaires avant de se marier. Parce qu'on se marie pour être heureux.
Absolument. Alors, certains parents disent, nous faisons des sacrifices énormes pour nos enfants. Comment expliquer que malgré les efforts financiers, l'échec scolaire persiste?
Évidemment, si vous faites un grand champ de 50 hectares avec la mauvaise semence, ça ne produira pas. La condition de base pour la réussite scolaire, c'est le respect de l'âge scolaire. Ne prenez pas un enfant de 3 ans, vous le placez dans une classe pour enfants de 6 ans, vous le pompez avec des répétitions, des répétiteurs, ça ne passera pas. Ça ne passera vraiment pas. Et vous savez, en maternelle, les activités durent 5, 10, 15 minutes. À partir de la cible, on passe à 20, 25, 30 minutes. Un peu plus haut, on est à 45 minutes, une heure de temps. Au collège, c'est 2 heures. À l'université, c'est 4 heures. Tout cela, pourquoi? Parce que l'âge. Vous avez les épreuves de 1 heure à l'école primaire. Mais vous avez les épreuves de 2 heures au collège. Vous avez les épreuves de 4 heures en terminale. De 4 heures, voire plus dans les grandes écoles. Tout ça parce que l'âge. Les programmes sont calqués sur l'âge. Les évaluations sont calquées sur l'âge. Et ce n'est pas parce que votre enfant a 3 ans à la CIL qu'on va adapter l'évaluation au niveau des 3 ans. Non. Donc, ces sacrifices sont là. Nous les voyons chaque jour. Mais à côté de ces sacrifices, il faut respecter les conditions pédagogiques. Pour arriver dans ce joli plateau, sur ce joli plateau, il fallait remplir certaines conditions. Pour entrer, pour assister à un spectacle, il y a des conditions à remplir. Toutes les activités que nous menons dans la vie ont des conditions de réalisation. Lorsque les conditions de réalisation ne sont pas là, vous allez faire tous les sacrifices de la terre, ça ne passera pas.
Alors, pour faire plus simple, à quel moment précis, selon vous, un parent trahit sans le savoir l'avenir de son enfant?
Avant de se marier, commence la trahison. Quand son épouse, quand la femme tombe enceinte, elle ne doit pas être stressée. Une femme stressée à un fœtus stressé. Une femme stressée à un enfant stressé. Une femme qui est toujours dans l'angoisse, dans la peur. L'enfant développe ces mêmes attitudes dans le ventre. Une femme qui passe durant la grossesse son temps à se saouler la gueule, ça a un impact sur le fœtus. Si elle fume, ça a un impact. Si elle pleure, ça a un impact. Et c'est quand ce bonhomme vient au monde et qu'il arrive à l'école que vous vous rendez compte qu'il porte les stigmates de 9 mois passés dans le ventre de sa maman. Après l'accouchement et avant l'âge scolaire, préscolaire de 3 ans, il faut faire ses vaccins. Il ne fait pas ses vaccins, il s'expose. Il faut faire des consultations. Il ne fait pas, il s'expose. Il tombe malade, il faut aller à l'hôpital et dans les pharmacies et non dans la rue. Quand elle va dans la rue se ravitailler, ses médicaments ont un impact sur son cerveau. Nous allons travailler avec un cerveau détruit. Les dysorthographies, les dyslexies, les dyscalculies sont le fait que le cerveau a été touché. Là encore, il y a trahison. Les sauts de classe sont des éléments de trahison.
Et l'usage du fouet alors à la maison?
Il ne faut surtout pas utiliser le fouet. Jamais. On n'utilise pas le fouet en apprentissage. Quand votre enfant a mal au doigt, vous ne fouettez pas, vous traitez. Lorsque l'enfant ne comprend pas et qu'il a l'âge de la classe, on peut procéder à la remédiation. Mais lorsque l'enfant n'a pas l'âge de la classe, la remédiation ne passera pas.
Et que pensez-vous des parents qui disent qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à l'usage du fouet auquel leurs parents ont eu recours?
Mais ce qu'ils oublient de nous dire, ce qu'ils refusent de nous dire, ce qu'ils font semblant d'oublier, c'est qu'ils ont fait la cile à 12 ans. Ils ont fait la cile à 10 ans. Ils ont fait la cile étant vieux. À l'époque, quand on allait à la cile, on ne regardait pas l'arbre de naissance. On se levait la main droite et on te demandait de toucher l'oreille, l'oreille gauche. Eux, ils ont fait la cile à plus de 6 ans. Or, aujourd'hui, ils voudraient que leurs enfants fassent la même classe à 3 ans. C'est pas juste. C'est pas juste.
Oui. À vous entendre, l'usage du fouet ou la pression des répétiteurs est un signe d'une mauvaise orientation scolaire. Alors, quels effets psychologiques avez-vous observés chez les enfants soumis à ces pratiques?
Alors, je vais répondre à cette question par... c'est une petite une historiette. Okay. Alors, j'ai connu une élève au Kumuindu. Elle avait grandi dans un milieu du fouet. On fouettait à l'école et on fouettait à la maison. Et ça se passait en plusieurs parties. Première partie, on interroge. Deuxième partie, acte 2, elle se lève. Acte 3, elle ne répond pas. Acte 4, on fouette. Et acte 5, elle pleure. Donc c'était questionnement. On se lève, on ne répond pas. On reçoit les fouets et on pleure. Elle est arrivée dans mon école. Et dans mon école, on ne fouette pas les élèves. Même pas. Alors, l'enseignant, après 2 semaines, vient dire, monsieur le directeur, j'ai une élève en classe. Quand je l'interroge, elle se lève, elle ne répond pas à la question. Quand je lui demande de s'asseoir, elle pleure. Vous connaissez l'expérience de Pavlov. Donc cet enfant avait développé quelque chose d'assez grave pour son organisme. Elle savait que dès qu'on l'interroge, elle ne répondra pas à la question et elle sera punie. Elle est arrivée dans un environnement où on ne punit pas, mais elle pleure. Vous voyez un peu ce que cette violence a développé chez cet enfant, quelque chose d'inime. Alors maintenant, il fallait rencontrer les psychologues pour qu'un travail de restauration soit fait. Donc, le fouet, c'est quelque chose qu'il faut bannir en apprentissage. Alors, pourquoi est-ce qu'on fouette souvent? Parce que l'enfant ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? J'ai 2 explications. Il ne comprend pas parce que, un, peut-être l'enseignant ou le répétiteur adopte des mauvaises méthodes, ou le répétiteur adopte de bonnes méthodes, mais l'enseignant, l'élève n'est pas prédisposé à suivre les explications. Alors, lorsque l'enfant n'est pas prédisposé à suivre des explications, ça ne passera pas s'il n'a pas l'âge. La remédiation, et c'est quelque chose que nous avons vu, la remédiation, ça passe à 100% auprès des enfants qui ont l'âge de la classe. Mais ça passe à 50% auprès des enfants qui n'ont pas l'âge de la classe. Mais après un mois, la remédiation est partie. Ça veut dire que si l'enfant ne parvenait pas à faire une opération en octobre, on a remédié. Un enfant qui n'a pas l'âge, les semaines qui suivent, il s'en sort. Deux mois après, on revient avec les mêmes opérations, c'est parti. Le cerveau n'a pas gardé l'information. Pourtant, lorsque l'enfant a l'âge de la classe, ça coule. Il est fier de travailler.
Et ça reste.
Et ça reste. Et ça reste. Quand l'enfant a l'âge de la classe et ça ne reste pas, cela signifie qu'il développe ou il a développé une pathologie. Et c'est pour cette raison que dans les écoles qui se respectent, on pose des questions sur l'état de santé de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a été maladif tout petit, même s'il a l'âge de la classe, il s'inscrit parmi ceux qu'on appelle les apprenants lents. Même s'il a l'âge de la classe, il apprendra lentement. Parce que la maladie qu'il a développée a certainement lessivé une partie du cerveau et peut-être cette partie qui lui apprend, qui développe la lecture, ou bien qui développe la mémoire, ou bien qui développe l'écriture ou la production de l'écrit. Donc, l'âge, c'est fondamental.
Alors, Monsieur Guillaume Chuang, vous disiez tantôt que dans votre école, on ne tape pas sur les enfants. Alors, nous aimerions savoir ce que vous faites à ceux qui font des bêtises, parce que on sait que les enfants, c'est pas facile à encadrer.
Alors, on ne tape pas sur les enfants en apprentissage. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a 0 sur 20, on ne le fouette pas. Mais par contre, s'il est grossier envers un ami, il sera puni. S'il est grossier envers l'enseignant, il sera puni. Mais s'il ne parvient pas à vous faire une soustraction, ou une addition, ou une multiplication, on ne doit pas le fouetter.
Bien reçu. Bien reçu, M. Guindoncha. Alors, dans quelle mesure le système éducatif camerounais, avec ses programmes et ses méthodes, contribue-t-il, lui aussi, à l'échec ou à la réussite?
Je voudrais ici dédouaner en partie notre système. Notre système est bon. Moi, on ne l'a même pas encore suffisamment expérimenté. Et je m'oppose parfois aux réformes qui ne font pas l'objet d'une évaluation scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on met sur pied. On a mis sur pied l'approche par les compétences à l'école primaire. On n'a pas encore évalué et nous sommes passés à autre chose. Malheureusement, il n'y a pas un suivi tel que, surtout dans le système francophone, tel que l'élève qui a fait l'école primaire il y a cela 20 ans se retrouve dans ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a trop d'innovations, il y a trop de changements sans que cela ne se fixe dans l'esprit de ceux qui sont censés l'avoir. Contrairement au système anglo-saxon où on sent une certaine stabilité, ce que les anglophones ont fait à l'école primaire hier cela une trentaine d'années, ils continuent à le faire. Mais ce que les francophones ont fait hier cela une trentaine d'années, ils ont déjà changé plusieurs fois. Plusieurs fois.
Oui, je reviens à ce que vous disiez tantôt, M. Guy. Excusez-moi, vous avez souligné que même certains enseignants commettent ces petits manquements vis-à-vis de leurs propres enfants.
Oui.
Alors, comment l'expliquez-vous?
Et moi, je dis aux parents, quand un enseignant vous demande de faire sauter la classe à votre enfant, il ne vous fait pas du bien. Il ne vous fait pas du bien.
Ok. Les chefs d'établissement et conseillers d'orientation, est-ce qu'ils sont suffisamment écoutés par les familles?
Très peu. Les conseillers d'orientation, comme les enseignants, comme les médecins, sont des personnes à part. Ce n'est pas des personnes comme le commun des mortels. Et je suis... Là, je vais arborer ma casquette de chrétien. Avec mon expérience, j'ai compris que le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un artiste qui sait ce qu'il fait. Donc, quand un enfant est conçu, le Seigneur a tout programmé. tout Amen. Programmé.
Amen.
Et là, qu'est-ce qu'il demande aux parents de faire? De suivre ses envoyés sur terre, que sont les enseignants, les conseillers d'orientation et les médecins. Parce que le parent est libre, et c'est ça la puissance du Seigneur, cette liberté qu'il nous a donnée. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais on a mis sur leur chemin des guides au niveau des guides sanitaires que sont les médecins, des guides pédagogiques que sont les enseignants, les conseillers d'orientation. Mm-hmm. Vous croyez que quand un conseiller regarde votre enfant et vous dit il faut qu'il fasse enseignement technique, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Et moi je dis toujours, Christ a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de choses, mais ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un grand enseignant. Nous sommes des Christ en miniature, nous autres enseignants. Donc quand nous parlons, ça ne vient pas de nous. Et il y a des enseignants qui disent, celui-ci sera, et il le devient. Attendez, vous croyez qu'il le dit parce qu'il a lu dans la boule de cristal? Non, c'est une inspiration qu'il est lui-même incapable d'expliquer.
Absolument.
J'ai trop d'exemples.
Oui. Monsieur Guillaume Chouan, permettez-moi de vous interrompre. On pourrait s'éterniser à vous écouter, tellement ce que vous dites est émouvant. Alors, en lisant vos écrits, on a vu que vous évoquez les effets, tant pour moi, les effets néfastes de la technologie et de la multiplication des écrans. Alors, que devraient faire les parents pour trouver l'équilibre entre outils numériques et réussite scolaire?
Malheureusement, la modernité pousse les parents à s'équiper au niveau de la cuisine, du salon, de la salle à manger, de la salle d'études, avec ce wifi, avec les téléphones, avec les onduleurs, avec les appareils électriques, électroniques, qui ont un effet néfaste. Les ondes électromagnétiques ont un effet néfaste sur le cerveau de l'enfant et sur le cerveau humain en général. Moi, j'invite les auditeurs à aller sur Internet, de taper sur Google les effets néfastes des ondes électromagnétiques et ils en sauront davantage. Alors, les parents ne sont pas obligés de tout acheter à la maison. Il y a des familles dans lesquelles on a le téléphone après le baccalauréat. Ça peut s'expliquer parce que l'enfant va se lancer en recherche dans l'enseignement supérieur. Mais au même moment, vous avez des familles dans lesquelles les enfants de 6e, 5e, coup moins 1, coup moins 2 ont des téléphones. Vous avez des familles dans lesquelles on calme l'enfant qui pleure avec le téléphone Android. Mais c'est cruel quand vous placez le téléphone Android à 30 cm des yeux. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, le conseil que je donnerai aux parents, c'est de faire le bon choix. Ces appareils-là sont très dangereux et savoir les déconnecter pendant les jours de classe, de ne plus leur donner. C'est vous qui donnez, c'est vous qui offrez le téléphone à l'enfant, vous retirez. C'est vous qui payez le câble, vous arrêtez. Et imaginez, quand vous dormez dans une maison avec les ondes électromagnétiques, vous ne dormez pas bien. Il y a des gens qui dorment avec leur téléphone au chevet.
Du lit.
Au chevet du lit. Mais c'est grave. C'est grave. Le téléphone doit rester au salon. Il y a des gens qui ont des téléviseurs dans leur chambre. C'est terrible. Et ils vont se plaindre des maux de tête.
Des malaises cardiaques.
Des malaises. C'est tout cela qui fait que vous avez des enfants aujourd'hui qui vont à l'école sans faire l'école. Ils font une année en classe, mais ils ne font pas une année de classe. Ils arrivent le matin, ils repartent dans l'après-midi. Ils n'ont rien pris. Le cerveau est touché.
Alors, toujours parlant de l'intelligence artificielle, peut-elle devenir un allié de l'éducation au Cameroun, ou plutôt un piège si les parents ne savent pas l'encadrer?
C'est un gros piège. C'est un gros piège si les parents ne peuvent pas l'encadrer. Mais par contre, l'intelligence artificielle est incontournable, surtout lorsqu'on se lance dans la recherche. Lorsqu'un enfant a un téléphone Android et qu'on lui donne une factorisation en devoir, il sait comment il entre les données et il tape. Après 2-3 secondes, il a la factorisation. Donc, les parents doivent faire très attention parce que les enfants auront des bonnes notes. Et ça se voit aujourd'hui. Je connais un enseignant, professeur de lycée, qui a donné un devoir à faire à la maison. Tout le monde a eu 20 sur 20. Il a donné le même devoir en interrogation. Tous ont eu 0 sur 20. Et qu'elle a mené ses enquêtes, il s'est rendu compte que l'intelligence artificielle était passée par là. Donc, c'est un piège et les parents devraient se préoccuper. Sinon, cette intelligence artificielle va aggraver leurs responsabilités dans l'échec scolaire de leurs enfants. C'est inadmissible qu'un élève de terminale passe l'année scolaire avec une moyenne annuelle de 14 sur 20 pendant 3 années et vous rate le baccalauréat. C'est pas normal.
Parlant de l'intégration et la société, vous écrivez que l'échec scolaire dépasse largement le cadre académique. Alors, quelles répercussions scolaires, économiques ou communautaires avez-vous constaté?
J'ai beaucoup de petites histoires. J'ai connu une élève très brave qui a eu le concours d'entrée en 6e à 8 ans et demi dans un collège de la place. A eu son bac C avec mention très bien et n'avait pas encore 15 ans. Cet enfant a eu 3 concours, Centrale de Paris, Polytechnique et consort. Et j'ai demandé à son parent, tu vas envoyer ta fillette en Europe? Il m'a dit non, elle est trop petite. Et je lui ai demandé, mais à quoi ça a donc servi que cet enfant fasse cours à l'école? Puisque quand elle était au cours moyen 2 chez moi, pendant la récréation, elle rentrait jouer avec ses promotionnaires qui étaient encore préparatoires. En classe, elle ne parlait pas avec les autres qui avaient, pendant qu'elle avait 7 ans, les autres avaient 10, 11, 12 ans. C'était le bébé de la classe. Le bébé de la classe. Alors, elle a fait une formation et elle a déposé une demande après son master 2 pour être dans une banque. Et c'est là où ça devient intéressant. Elle était tellement petite que le directeur général de cette banque lui a demandé, ma fille, tu aimerais que je te donne un salaire de combien? En principe, avec son niveau, elle allait commencer au moins à 800 000 francs. Vous savez combien? Elle a dit, qu'on pouvait lui donner 50 000 francs et ça va.
C'est pas vrai. Donc elle n'était pas consciente.
Elle n'avait que 19 ans à l'époque. C'était école, école, école. Elle n'avait jamais évolué avec ses promotionnaires. Elle était toujours dans son coin. Voilà donc quelqu'un qui a des compétences, mais qui ne peut pas négocier un salaire. Pour un poste de 800 000 francs, il demande 50 000 francs.
C'est pas vrai.
Et aujourd'hui, cet enfant a plus de 35 ans. Elle gagne bien sa vie, mais elle dit zéro mariage.
Et pour quelle raison?
Pas d'enfant. Cela signifie que elle est devenue asociale.
C'est vrai, ça.
Elle ne sait pas intégrer. Elle vit dans un duplex. Elle vit seule. Elle ne prépare pas. Elle va dans des restaurants. Elle passe les commandes. Voilà un peu le danger de ces sauts de classe. Et parfois, ça se retrouve dans la vie conjugale. Quand vous avez ce genre d'enfant, si c'est une fille, quand vous l'avez pour épouse, alors c'est une grosse croix que vous portez. Si c'est un garçon que vous avez pour époux, c'est une autre croix que vous portez. Pour les garçons, c'est plus grave. Parce que ça sera des maris à maman. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais une décision seule dans son couple. Il faudra toujours se référer à maman. Et on fera dans son couple ce que maman aura décidé. C'est des situations que nous vivons au quotidien. Donc ces enfants qui évoluent, parce que le tout n'est pas de passer en classe supérieure. L'objectif de l'école n'est pas de passer en classe supérieure. Ce n'est non plus d'obtenir le diplôme, mais c'est de s'épanouir dans la vie professionnelle et dans la vie conjugale et familiale. Beaucoup ne sont pas épanouis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été préparés à la vie. L'école prépare la vie. Quand vous faites à 3 ans la classe avec vos camarades de classe, vous évoluez ensemble, vous vous préparez à la vie. Mais lorsque vous avez 3 ans, vous retrouvez avec des gens qui ont 6, 7 ans, alors vous évoluez hors du système social. Moi, je connais une jeune fille qui avait toujours au moins un décalage de 5 ans avec ses promotionnaires. Elle arrive à l'université, elle est en master à 20 ans. Pourtant, les autres sont en master à 25, 26 ans. Mais vous savez pourquoi elle a décidé de faire un enfant? Non. Parce qu'elle voulait imiter les autres. Elle n'était pas avec ses promotionnaires de 20 ans. Elle était avec les mamans, alors qu'elle était gamine. Donc, au-delà du saut de classe, au-delà de l'âge, il y a des répercussions dans la vie professionnelle. J'ai connu un parent d'élève qui a fait un témoignage. Il est sorti de Polytechnique à 18 ans ou à 19 ans. Mais c'est 16 ans après qu'il est véritablement devenu ingénieur. Parce que personne n'acceptait de lui donner un chantier. Il avait le diplôme à 20 ans. Il était minuscule comme tout. Sur un chantier, on croyait que c'était lui, la masseur de brouette, alors que c'était lui l'ingénieur. C'est quand il a atteint 35 ans, c'est-à-dire 16 ans après son diplôme d'ingénieur, qu'il a eu son premier, et c'était une cuisine, son premier véritable chantier. Parce que il travaillait comme assistant pendant tout ce temps.
Si un parent nous écoute aujourd'hui et se rend compte qu'il a déjà commis cette erreur, que peut-il encore faire pour corriger le tir?
Alors, ça dépend. Si l'enfant est encore maternel, qu'il fasse rentrer l'enfant dans sa classe d'âge, cette rentrée. Alors, si l'enfant est déjà en 6e, 5e ou 4e, qu'il ne force rien, le redoublement ne sera pas une mauvaise chose pour cet enfant. Et pendant qu'on y est, j'ai assisté à une réunion de parents d'élèves de seconde C dans un collège de la place. Et un parent se plaignait que sa fille ne parvenait pas à se coucher avant 22h parce que les devoirs. Seconde C. Il se plaignait. Et comme j'étais pressé, j'ai levé le doigt pour demander à ce parent, quel âge a votre enfant? Seconde C. Il m'a dit, elle a 13 ans. Et je lui ai dit, vous voulez mon conseil? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, la seconde, on doit faire la seconde à 16 ans. Mon conseil est que vous fassiez tripler la seconde à votre enfant pour qu'elle fasse véritablement la seconde C à l'âge qui correspond à la classe. Parce qu'avec ça, elle ne pourra pas s'en sortir. Donc, lorsque l'enfant est encore maternel et que les parents ont fait l'erreur, qu'ils aient l'humilité de rentrer dans la classe originale, normale de l'enfant. Si on avait décidé l'année dernière que l'enfant doit redoubler et que vous êtes allé inscrire dans une classe supérieure ailleurs, faites rentrer cet enfant. Ça ne sert à rien. Et bien plus, je suis souvent opposé aux rétrogradations sur la note de l'enfant. Lorsqu'un enfant au coup moins 2, au coup moins 1, et qu'il ne sait pas lire, ça ne sert à rien de le rétrograder au coup élémentaire 2. On apprend à lire dans le système francophone que les parents qui nous suivent ce soir et qui ont un peu triché, s'ils ont un peu triché, qu'ils se ravisent. Parce que ils n'investissent pas pour que l'enfant redouble. Ils n'investissent pas pour que l'enfant avance pour rien. Alors les enseignants, certains vont vous faire plaisir. Vous donner les notes aux enfants, sachant que le parent va gérer, comme on dit au quartier, le retour dans sa famille. Parce que quand l'enseignant travaille, il sait qui est qui. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, c'est la première semaine. Chaque enseignant sait déjà, parce que les évaluations diagnostiques sont en train d'avoir lieu. Un enseignant peut déjà savoir l'enfant qui ira en classe supérieure et l'enfant qui aura des difficultés. Lorsqu'un enfant, ou quoi, élémentaire 1, élémentaire 2, vous écrit tomate sans que vous ne reconnaissiez un O, un A, un E, un T ou un M, alors c'est dangereux. Imaginez une tomate dans lequel on n'a aucune voyelle et pas de T, pas de M. Il va faire quel miracle? Il y a un type de miracle qu'on ne fait pas. C'est vrai qu'il y a des enseignants. Lorsque l'enfant sait déjà lire, on peut faire un type de miracle. Mais lorsqu'il ne sait pas lire, on est perdu.
Bon, maintenant, nous sommes en pleine rentrée scolaire 2025-2026. Pour mettre les enfants sur le chemin de la réussite, quels conseils donneriez-vous aux parents?
Bien. Alors, je ne sais pas où je vais me positionner. Quel type de parents? ceux qui ont respecté l'âge ou ceux qui n'ont pas respecté l'âge ou les deux.
Bon, disons les deux.
Alors, pour ceux qui ont respecté l'âge scolaire de leurs enfants, pour ceux qui ont respecté la décision des conseils de classe de redoublement, je leur dis, un, ne pas fouetter, mettre l'enfant en confiance, échanger avec ce dernier sur ses propres difficultés. Lorsqu'il vous ramène une mauvaise note, posez la question sereinement, sans vous fâcher. Alors, mon grand garçon, pourquoi ça s'est mal passé? Ma grande fille, pourquoi tu n'as pas pu réaliser ceci? Si l'enfant est sûr que sa réponse ne va pas vous pousser à lui donner des coups, il vous dira la vérité. Parce que quand on compose, lorsque l'enfant est en train de faire une opération, à 50% de la résolution, dès que le voisin le touche un peu, il perd le fil. Et vous avez des enfants qui réussissent à faire des opérations à la maison, mais pas à l'école. Parce qu'à la maison, personne ne le perturbe. Pour les parents qui ont l'âge, dont les enfants ont l'âge de la classe, pas de fouet, beaucoup de sérénité, vous les mettez en confiance. Quand ils reviennent avec la note, il faut savoir apprécier. Ils attendent ça. Il faut savoir les motiver. Ça, c'est d'un. De deux, les parents ne jouent pas le même rôle. Le petit garçon sera plus enclin à écouter la maman. Il est plus sensible aux appréciations de la maman. Déjà, quand il rentre avec sa copine, si maman n'est pas là, il ne montre pas à papa. Il attend maman. Il montre d'abord à maman. Il veut faire plaisir. Et regardez, quand l'enfant vous remet sa copine, il vous regarde dans les yeux pour voir si ça scintille. Est-ce que maman est contente? Il faut manifester votre bonheur. Qu'il sache que lorsque je travaille bien, maman est contente. Et pour la petite fille, c'est le papa. Quand elle rentre, même si elle montre à maman en premier, elle veut l'appréciation de son père. Parce que qu'est-ce qui se passe le lendemain à l'école? Même à la cile, ils font des petits commentaires. Mon père a dit que, maman a dit que. Il faut ça pour les galvaniser. Là, c'est pour ceux qui ont l'âge de la classe. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'âge de la classe, ça sera plus difficile. Parce que c'est des enfants qui vivent dans la peur.
La peur de décevoir leurs parents.
La peur de décevoir leurs parents. Parce qu'ils ont déjà déçu le maître à l'école. Ils ont déçu le directeur. Quand on remet les bulletins dans la cour, on dit premier, deuxième, troisième, quatrième. Il y a certains qu'on n'appelle jamais. Le reste des bulletins remis en classe. Et quand on arrive sur le dernier, on n'applaudit certainement pas. Lui aussi, il aurait voulu être applaudi. Il n'est pas applaudi. Au contraire, si l'enseignant n'est pas assez pointilleux, il risque de dire des choses qui vont blesser davantage cet enfant. Donc, lorsque l'enfant n'a pas l'âge de la classe, il a peur, la remédiation est difficile. Il a peur de travailler. Il a peur de ne pas réussir. Il a peur de ne pas faire plaisir. Et même quand il fait plaisir, il se demande si la seconde d'après fera encore plaisir. Donc, ça sera difficile. Et lorsque vous mettez le fouet à côté, c'est plus grave. Et parfois, ce n'est pas le fouet. L'enfant est assis, là, comme moi. Le parent est debout, juste derrière, avec la main levée, comme un marteau, prêt à s'abattre sur l'enfant. Et là, il travaille comme ça. Imaginez un enfant qui travaille dans la peur. Il ne va même pas réussir. Et autre chose, lorsque vous avez un enfant qui est en difficulté, ne pas faire corriger cet enfant par son frère. Ce n'est pas parce que Tamo n'a pas pu faire l'opération qu'on va appeler son petit frère ou son grand frère de venir faire. Il faut éviter les humiliations entre frères et sœurs. Ces humiliations restent parfois toute la vie. Et quand ils grandissent, quelqu'un vous rappelle que quand on était petit, c'est toi qui me montrais, non? C'est à cause de toi qu'on me fouettait. Parce que papa va dire, donc tu ne parviens pas à faire alors que ton petit frère fait. Voilà un coup de plus. Donc, pour les enfants qui n'ont pas l'âge, il est inutile de chercher les répétiteurs. Laissez l'année s'écouler. Si le redoublement s'impose. Et il y a des parents qui sont futés. Parce qu'à l'école primaire, jusqu'au coup moins 2, on doit avoir une note supérieure à 15 sur 20. Il y a des parents dont les enfants passent en classe supérieure avec 12. Ils viennent nous dire, monsieur le directeur, je voudrais que cet enfant reprenne la classe. Parce qu'ils savent. Et quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'ils ont triché quelque part. Pour ceux qui sont conscients, ils constatent que leur manquement, leur petit manquement, a eu des effets néfastes et Parce qu'un enfant à l'école primaire passe avec 9, 10, 11, 12, 13, ben en terminale, il n'y aura pas 5. À l'école primaire, c'est 17, 18, 19, 16. Dans certaines écoles primaires, quand tu as 15 sur 20, on écrit passable. 15 sur 20, passable. Et je trouve ça normal et juste.
Vous trouvez ça normal et juste pour 15 sur 20?
15 sur 20, c'est passable à l'école primaire.
Alors, qu'est-ce qui est assez bien alors?
Assez bien, on est à 16. Bien, on est à 17. Très bien, on est à 18. Excellent, on est à 19.
Et lorsqu'on est à 10?
C'est très insuffisant. Très insuffisant.
Oui, Monsieur Guidon, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de Radio Intégration. Ce soir, nous vous remercions.
Le plaisir est partagé et ça sera avec un autre plaisir que je viendrai ici participer à la construction d'une nation forte à travers la formation des enfants de l'éducation de base.
Un échange riche qui ouvre bien des pistes de réflexion. Mais pour mettre tout cela en perspective, rien de tel que le regard neutre et méthodique d'un spécialiste. Écoutons maintenant l'avis de l'expert.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une intervention sur la responsabilité parentale en milieu scolaire. La question de l'échec de nos enfants aujourd'hui dans nos centres éducatifs. Cette responsabilité-là, elle est allouée. Il y a une très grande responsabilité qui est allouée aux parents d'enfants. Retenons avant toute chose que les parents qui réussissent adoptent parfois des comportements positifs, donc, notamment en acceptant les conseils des professionnels des milieux de l'éducation, alors que ceux dont les enfants échouent, les parents dont les enfants échouent accumulent des petits manquements qui compromettent l'avenir scolaire de leurs enfants. Ça, c'est vérifié. Aujourd'hui, les erreurs qu'on retrouve dans le cas d'espèce débute dès la conception du bébé et se poursuivent tout au long du parcours éducatif de l'enfant. Les petits manquements des parents, par exemple dans l'encadrement de leur progéniture, sont de plus en plus légion quand on connaît les occupations diverses qu'occupent les hommes, les parents d'enfants aujourd'hui. L'éducation de leurs enfants est dans la plupart des cas reléguée aux aspirations secondaires. Nous retenons aujourd'hui qu'il y a une série de mauvaises décisions et de comportements parentaux qui sont susceptibles de mener à l'échec des enfants en milieu scolaire. Nous pouvons prendre les cas suivants. Le premier cas, c'est pendant la grossesse de l'enfant, c'est-à-dire pendant la période où la maman est enceinte. Le manque de suivi prénatal et le stress de la mère peuvent avoir des conséquences sur le développement du fœtus. On se retrouve parfois avec des enfants qui naissent avec des prérequis de naissance qui ne les permettent pas d'aspirer à de bons rendements scolaires. À la maternelle aussi, quand l'enfant commence à marcher et fait ses premiers pas scolaires, l'inscription trop précoce d'un enfant qui ne respecte pas l'âge scolaire recommandé peut créer un stress constant et un sentiment d'incompréhension. On se retrouve là avec des aînés, on ne côtoie pas sa tranche d'âge et l'enfant se sent frustré, il est dans un milieu où il ne se retrouve pas. Après la maternelle à l'école primaire, il faut retenir que le refus de redoublement, le fait de faire sauter les classes aux enfants, même s'ils sont très brillants, sont des erreurs irréversibles que les parents se commettent parfois de commettre. Il faut éviter cet état de fait parce que à long terme, l'enfant sera bloqué et ça ne permettrait pas son développement scolaire.
Commençons donc par ce qui fait l'essence de notre émission, vos voix, vos ressentis, vos expériences. C'est l'heure d'ouvrir le débat à micro ouvert.
Je m'appelle Jastra Edmond, enseignant de géographie au lycée moderne de Koumra, au sud du Tchad. Parlant de l'échec scolaire, les responsabilités sont partagées entre les parents, les élèves, les chefs des établissements et le gouvernement. Du côté des élèves, il y a un manque crucial de prise de conscience de la recherche du savoir. Certains choisissent des établissements sans consulter les parents, puisque c'est eux qui financent leur scolarité. Ceux qui reprennent la seconde dans un lycée A partent s'inscrire en première L ou S dans un lycée B. Bref, les passages en classe supérieure sont achetés. Du côté des parents, il y a aussi un manque de suivi. Très rares sont ceux qui viennent vérifier la présence de leurs enfants ou encore leur comportement à l'école auprès des censeurs ou encore auprès des surveillants. Très rares aussi sont ceux qui vérifient régulièrement les cahiers de leurs enfants. Les chefs des établissements aussi participent aux échecs scolaires en ayant un regard sur le côté finance. Ils font le test de recrutement des nouveaux élèves, mais aucun élève rate le test. Prenons par exemple 30 enfants qui sont testés. Aucun d'entre eux n'est récalé. Et c'est vrai. Pire encore, pendant les examens, surtout le BEF, on traite tous les sujets aux enfants. Pour ce genre de cas, à quoi peut-on s'attendre si ce n'est pas l'échec? On accompagne ces enfants comme ça et arrivé en terminale alors, ils font 2, 3, 4 fois le bac et ils quittent l'école. Les enseignants, comme on les néglige au Tchad, certains ne se donnent pas vraiment à l'enseignement de qualité. Et cela freine aussi la bonne formation des élèves, d'où l'échec s'installe aussi. Personnellement, j'avais donné un exercice l'année dernière et aux élèves de la classe de la seconde. C'est un dessin même à faire à la maison. Et quand ils ont remis les copies, j'ai trouvé une copie qui est écrite ni en français, ni en arabe, moins encore en Saramadinga, la langue locale. J'avais pris la copie pour présenter au censeur en lui disant que voilà les enfants que vous les avez recrutés, est-ce que vous pouvez lire? Le censeur n'a pas pu. Et en première L, l'enfant n'arrive pas à écrire avril en français. Je lui ai demandé, mais madame, mais ce que vous avez écrit là, c'est pas bien, il faut rectifier. Il y a un élève à côté qui me disait que monsieur, c'est sûr qu'elle ne va pas bien écrire. Je lui ai dit que bon, maintenant madame, si vous écrivez bien la date, je vais vous donner 5 points. Et l'élève là revient encore me dire que monsieur, même si c'est 10 points, elle ne va même pas écrire. La fille s'est mise à écrire de janvier jusqu'à juillet et elle était dépassée.
En tant qu'étudiant à l'université de N'Djamena, je pense que si aujourd'hui on parle de l'échec scolaire, la faute revient tout d'abord à l'étudiant tchadien lui-même. J'ai dit ça parce que aujourd'hui, la plupart des étudiants tchadiens choisissent leur filière au moment d'entrer à l'université, c'est-à-dire après l'obtention de leur baccalauréat. Et ça, c'est une grave erreur parce qu'une filière ne se choisit pas de la sorte. Une filière doit être une vocation, une passion. Et elle doit être choisie pendant même qu'on est encore au collège ou même à l'école primaire. Comme ça, on a déjà une idée sur ce qu'on veut faire plus tard, sur ce qu'on veut devenir plus tard. Et quand c'est ainsi, on est concentré, on est engagé, on est focus. Donc une fois à l'université, on se donne les moyens, on se donne à fond pour pouvoir s'en sortir. Et donc on ne pourra pas parler de l'échec scolaire. Ce qui arrive quand on parle de l'échec scolaire aujourd'hui, c'est le mauvais choix des filières de la part des étudiants eux-mêmes. Et quand tu as mal choisi ta filière, tu ne pourras pas t'en sortir. Et là, on parlera toujours de l'échec scolaire. Deuxième moment, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que quand on vient dans les universités tchadiennes, par exemple à N'Djamena ou à Sar, où j'ai eu l'occasion de fréquenter, ce n'est pas du tout facile de trouver de quoi manger dans la cantine. Et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et aussi, les bus ne sont pas en bon état. La plupart de nos bus sont en panne, les vitres cassées, les roues crevées et tout ça. Et c'est pas facile en fait.
Moi, je dirais que l'échec scolaire est d'abord premièrement causé par le parent, ensuite par l'enfant. Le parent en premier parce que le parent doit s'arranger ou doit se soucier des études de son enfant. Vous ne pouvez pas avoir un enfant à l'école et ne pas suivre cet enfant-là. Il faut vérifier si l'enfant fait les devoirs, il faut vérifier si l'enfant copie normalement les cours et s'il lit même ces cours-là. Parce que c'est ça le problème, il faut vérifier si l'enfant lit ces cours-là, il faut contrôler si l'enfant lit ces cours-là. Je prends un exemple banal. Vous ne pouvez pas mettre un argent à la banque sans toutefois vérifier s'il y a du pourcentage, si cela augmente. Vous ne pouvez pas avoir un argent. C'était l'argent, c'est que les parents s'alignaient pour la vérification des pourcentages et autres. C'est la même chose avec un enfant. Avoir un enfant à l'école, c'est comme avoir un argent à la banque. Parce que c'est cet enfant-là qui fera ta fierté, toi le parent demain.
Ainsi, sous les cris joyeux des enfants qui reprennent la route des écoles, il y a des larmes invisibles, les sacrifices muets, mais aussi les semences de demain. Et c'est peut-être cela la plus belle leçon de la rentrée. La certitude que malgré les tempêtes, l'espérance continue de fleurir dans les mains de parents. Bonne rentrée scolaire à tous. Voilà qui nous amène au terme de cette émission des cahiers de l'intégration consacrée à l'échec scolaire au Cameroun. Au fil de nos trois rubriques, nous avons entendu vos voix dans un micro ouvert, reçu l'analyse précieuse de l'invité du jour et bénéficié des éclairages de la vie de l'espère. Un constat s'impose, l'échec scolaire n'est jamais une fatalité, il résulte souvent de choix parentaux précipités, de négligences accumulées, mais aussi d'une pression excessive sur les enfants. Retenons ensemble qu'un enfant grandit et apprend à son rythme, et qu'accompagner avec patience et responsabilité reste la meilleure clé de réussite. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Cahiers de l'intégration sur Radio Intégration. Au micro de la présentation, j'étais Marie-Noël Etungu et j'étais assistée à la technique par Josué Nabral.
Du lundi au vendredi, tous les soirs à Radio Intégration, espace 18h30-22h. Soyez au cœur de l'intégration dans la zone CEMAC avec les cahiers de l'intégration. Une émission qui vous fait découvrir une véritable et concrète mise en commun des efforts pour gérer les ressources de la sous-région Afrique centrale, au profit de tous et de chacun. Une communauté de 6 États engagés pour développer un espace intégré et y promouvoir un développement harmonieux. L'interconnexion des pays de la zone CEMAC. 19h, on en parle. C'est 52 minutes de tout ce qui fait notre quotidien. Restez au cœur de l'intégration des communautés avec Radio Intégration, la voix des communautés.